Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. Et je vous propose ce soir une émission un peu particulière puisque pour la dernière fois cette saison, nous allons retourner faire un tour du côté de chez nos camarades de Radio Parleur, la radio de toutes les luttes et des luttes, il y en a encore malgré l'arrivée des vacances estivales, comme vous allez pouvoir le constater à travers deux reportages réalisés samedi dernier. Dans un premier temps, nous irons au centre culturel et militant autogéré La Parole Errante à Montreuil, où a eu lieu un hommage à Maurice Rajfus, écrivain prolifique décédé il y a quelques semaines. Rescapé de la rafle du Veldiv, il s'est engagé dans de nombreux combats contre le colonialisme, l'autoritarisme, le fascisme et le racisme. Il a également longtemps travaillé sur la question des violences policières, rassemblant des milliers de coupures de presse sur 50 ans, préfigurant le travail que mène aujourd'hui David Dufresne avec Allo Place Beauvau. Il s'agit d'un reportage réalisé par Martin Lelièvre. Ça sera ensuite au cœur du cortège de la Pride qui s'est tenu à Paris le même jour que nous irons, puisque contre l'annonce de report du rassemblement traditionnel par l'inter-LGBT, c'est entre 3000 et 7000 personnes qui s'étaient rassemblées à l'appel d'une soixantaine d'associations et collectifs qui organisaient une Pride alternative avec la volonté de revenir à plus de revendications militantes après plusieurs éditions d'un événement festif ouvert aux marques commerciales. Le mot d'ordre était « Nos fiertés sont politiques ». On aura donc l'occasion d'écouter Militantes et Militants, un reportage réalisé par Justine Mascarilla. Et je vous propose qu'on démarre cette émission tout de suite.
Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émeute.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Bonjour.
Mais la personne qui va être à l'honneur là, je connais même pas. Je préfère avouer être ignorant que voilà. Donc là, je viens pour un peu apprendre voilà qui c'était et tout. Et...
Moi, j'ai découvert ce monsieur quand il est décédé. Mais en gros, c'était un écrivain antifasciste qui a beaucoup travaillé sur les questions de répression, sur les violences policières, sur l'antisémitisme. L'homme était concerné parce que ses parents ont été raflés et déportés. Lui aussi a survécu à la déportation. Et il a écrit une œuvre monumentale avec plus de 60 livres très détaillés, très spécifiques. Il est décédé du coup il y a quelques semaines. Du coup là on fait une journée un peu d'hommage avec des projections, des discussions, des tables rondes avec des historiens, des sociologues, on va dire des personnes qui sont spécialistes sur les questions qui lui tenaient lui aussi à cœur et qu'il a beaucoup travaillé tout au long de sa carrière.
Je m'appelle Marc Plocky et je suis en l'occurrence le fils de Maurice Rajfus. On a décidé de monter un hommage à Maurice Rajfus. C'est vrai qu'il est décédé le 18 juin en pleine manifestation contre les violences policières, ce qui est quand même assez extraordinaire vu que pendant plus de 20 ans, il a animé un bulletin que fait la police, où il a souvent été seul un peu derrière ce bulletin. Et c'est vrai que de voir que je dirais, cette question maintenant est reprise à la fois par des publics beaucoup plus jeunes et que les manifestations qui se déroulent sont multicolores, ça fait chaud au cœur. C'est une façon de rappeler à la fois tout le travail qu'il a pu réaliser sur beaucoup de questions, que ce soit la question coloniale ou anticoloniale, la question de l'antifascisme, la question des violences policières, mais pas seulement, montrer un peu l'importance qu'il a pu avoir auprès d'un certain nombre de militants et de générations.
Harmonie, militante chez Force Ouvrière, et présente au rassemblement La Parole Errante, en hommage à Maurice Rachfus.
Le premier livre que j'ai lu de lui, c'était sur la rave du Veldiv. Et j'avais été très très touchée. Au moment de la rave du Veldiv, il a été raflé avec ses parents. Son père, je crois, était un enseignant polonais, mais qui s'était réfugié en France, évidemment, qui fuyait. Et qui travaillait sur les marchés. Il vendait des chaussettes, je crois. Et ils ont été raflés dans un bâtiment. Et lui, sa sœur, ses parents. Et à un moment donné, un flic ou quelqu'un a dit « Les enfants peuvent partir ». Et leur mère, Rachfus et sa sœur, leur a dit « Sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous ». Et beaucoup de mères, au contraire, ont retenu leur enfant en disant « Non, non, tu restes avec nous ». Et ils sont tous partis à Auschwitz, personne n'est revenu. Et la mère de Rachfus, elle a sauvé la vie de ses enfants comme ça. Et quand j'ai lu ce bouquin, bon, j'ai une fille, moi aussi, je me suis dit « Est-ce que j'aurais eu cette conscience ?» J'espère que oui. Voilà, et Rachfus a dénoncé tout ça, tous ses crimes, l'État français, bien sûr, hein, et la police française, qui a une grosse responsabilité, non seulement dans les rafles, mais après, toutes les manifestations anticolonialistes qui ont été réprimées, hein, en 61, 200 Algériens foutus dans la Seine, voilà. C'était tout ça, Rachfus, mais il était lié à la classe ouvrière, au mouvement ouvrier, à l'humanité, c'est ça que j'aime.
Frédéric Goldbronn, réalisateur et auteur d'un film sur Maurice Rachfus, l'an prochain, La Révolution.
C'est quelqu'un qui s'est engagé, qui a une vie assez riche à l'après-guerre. Il a connu les avant-gardes, situationnistes, il a fréquenté des jeunes situationnistes, qui s'appelaient à l'époque l'International Lettriste. Il a participé un peu à leurs aventures et surtout à leur vie de bohème de l'époque. Puis après, il y a eu la guerre d'Algérie, il s'est beaucoup engagé, il a refusé d'aller à l'armée, il s'est beaucoup engagé contre la guerre d'Algérie et le départ du contingent en Algérie. Ensuite, quand il y a eu la montée du Front National, il est devenu président de RALFRONT. Enfin, il a toujours été très antifasciste, évidemment, mais plus largement contre toute forme de répression et de système de domination. Voilà. C'est fondamental que cette mémoire puisse se transmettre. Il était très obsessionnel presque, enfin c'était vraiment. Il était journaliste, il découpait les journaux pour. À chaque fois qu'il trouvait et qu'il relevait des violences policières, il les cartographiait, il les inventoriait. Et je pense qu'il consacrait une grosse partie de sa vie à ça, enfin même la quasi-totalité de sa vie à ça.
Maurice Rachfus, lors d'un extrait d'un reportage de Combini par Mathieu Abasque, Clément Gendard et Lila Blumberg.
J'ai tout ce qui relève du domaine de l'agitation, entre guillemets, entre 68 et 2014. Qu'est-ce que j'ai trafic de cannabis, deux agents de police écroués. Un policier jugé pour avoir tué Habib Abou Touchant.
Je m'appelle Nicolas Norito, j'ai 44 ans, j'anime les éditions et la librairie Libertalia depuis leur fondation. Il a écrit sur la période de la collaboration, il a analysé grandement le rôle de la police française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a travaillé sur le camp de concentration de Drancy, c'est un de ses meilleurs livres. Drancy est un camp de concentration ordinaire. Mais il a aussi travaillé sur le 14 juillet 1953, il a travaillé sur Charonne, il a travaillé sur les violences contre les Algériens organisées par Papon et la police française. Il a été souvent impliqué dans des luttes antifascistes. Il avait participé à un livre qu'on avait fait avec le collectif Reflex il y a une vingtaine d'années afin d'œuvrer à la libération de l'antifasciste marseillais Yves Perra. Donc voilà, Maurice rassemblait vraiment tous les milieux, les jeunes qui soutiennent le juste combat pour une meilleure société, pour une Palestine libre. Vraiment, c'était quelqu'un qui traversait les milieux. Il n'y a pas beaucoup de passeurs comme ça dans nos milieux. Il n'y a pas beaucoup de figures qui soient des figures qui fédèrent plutôt que qui désagrège. Voilà. C'est plutôt l'inverse qui se produit le plus souvent. Donc c'est une figure éminemment positive. Diffuser son travail, son œuvre, ça c'est notre mission à nous, éditeurs, faire en sorte que son œuvre soit toujours disponible, du moins ce qui n'a pas trop vieilli, ce qui est encore d'actualité, ce qui fait encore sens. Il y a un bon nombre de livres qui font encore sens aujourd'hui, vraiment. Et ensuite, le meilleur hommage, c'est de poursuivre ses combats, tout simplement. Ces combats, ils sont particulièrement d'actualité aujourd'hui. Ces combats, le combat contre les violences sécuritaires, les violences racistes, les violences policières, sont plus que jamais d'actualité grâce à des collectifs comme le collectif Vivolé, je pense à Ramata Dieng notamment, grâce à tout le travail d'Assa Traoré et du comité Adama, bien entendu. Retour sur le devant de la scène, oui, dans une certaine mesure, parce que la particularité de Maurice Rajpus, c'est que c'était quelqu'un qui dépassait les querelles de chapelle, les querelles de clan entre nous, dans le milieu de la gauche radicale.
Il faisait des liens ?
Ah bah oui, il établissait des liens entre tout le monde, entre les associations de quartier. Il suffit de voir les hommages qui ont été rendus à Maurice Rajpus, qui a embrassé en gros toute la sphère politique de gauche et d'extrême-gauche, et également tous les collectifs. Oui, c'est quelqu'un qui faisait le lien entre des générations, des individus, des causes. Le flambeau est passé, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Je pense que David Dufresne fait un gros boulot de ce côté-là en étant présent ce soir, en organisant la table ronde sur les violences policières.
Maurice est parti là, c'était le 13 juin. Il est parti en sachant qu'il se passait des choses en France, c'est-à-dire que ce qu'il avait porté pendant tant d'années, c'est-à-dire la question des pratiques policières, des violences policières, aujourd'hui, ces questions-là sont des faits majeurs de société, d'actualité, et nous incombe à nous tous de faire en sorte que ça ne retombe pas.
David Dufresne, écrivain, documentariste, vieux connaisseur du vieux Maurice. Alors moi, il y a deux combats qui m'ont marqué chez lui, le combat Ralph Ron, c'est-à-dire toute la question du fascisme. Il a été le président de Ralph Ron, et on s'était aussi retrouvés sur la question des sans-papiers. Je me souviens très bien de Maurice à Saint-Bernard, à l'église Saint-Bernard. Donc là, on est au milieu des années 90. Mais tout ça est lié en réalité. Police, fascisme, sans-papiers, immigration. De par ce que Maurice avait vécu enfant, ces questions-là étaient liées, quoi. Pour moi, c'est ce que je lui avais dit, qu'il était un éclaireur, quoi. C'était un éclaireur sur les questions fondamentales et sur la question de... En fait, il avait compris avant tout le monde que l'accumulation faisait sens. Que c'était en fait le fait que 1 plus 1 plus 1, ça fait pas 3, ça fait un système. Je pense que de Maurice, il faudrait surtout garder le côté obsessionnel et travailleur, à la limite plus que l'historien. L'historien, il est fondamental. Il a fait un travail sur la question... de la police et des juifs en France qui a fait date. Mais disons que si on veut rendre un hommage, c'est plutôt sur la partie vivante, je dirais. Donc la partie documentée, accumulée, les violences policières, les pratiques policières. Maurice part au moment même où toutes les questions qu'il a portées n'ont jamais eu autant d'écho. Jamais. Jamais depuis au moins 50 ans. La question de la police a été aussi discutée qu'aujourd'hui. Donc il faut que ce moment-là soit transformé, quoi, en quelque chose de pérenne. Les archives de Maurice, c'était principalement des archives basées sur la presse. La presse quotidienne jusque dans les années 2000, puis la presse un peu gratuite, il racontait ça très bien dans ses bouquins, parce que justement la presse dite nationale avait un peu abandonné ce terrain-là, donc c'était les faits divers, c'était etc. Donc déjà la presse, par essence quotidienne, elle est à N plus 1 minimum, mais parfois ça pouvait être à N plus 5, plus 10, etc. Les signalements, ils peuvent être à J plus 1, plus 2, plus 3, mais ils peuvent être quasi immédiat. Donc, bien évidemment, c'est la cadence qui a changé. Voilà. Il y a ça d'un côté. Et l'autre chose extrêmement importante, ça, on avait eu l'occasion d'en parler avec Maurice, c'est l'idée que chacun peut documenter les pratiques policières. Maurice, finalement, il passait par la presse. Il y avait quand même déjà ce filtre de la presse, en partie.
Manifeste, avril 1994. S'il est un domaine d'information qui n'encombre pas les colonnes des journaux, c'est bien celui concernant les activités de la police, voire de la gendarmerie française. Sauf s'il s'agit de bavures graves, Les Français ne sont pas jugés dignes de connaître les harcèlements au quotidien qui s'exercent contre toute une frange de la population de ce pays. Un comportement grossier, injurieux, méprisant, provocateur, raciste, brutal et enfin sexiste, c'est tout ce que l'on peut attendre d'un gardien de la paix, dont la mission initiale est d'assurer la protection des personnes et des biens. Le policier a toujours été l'élément indispensable d'une politique de rejet et d'exclusion, permettant de masquer les difficultés économiques et sociales. La police est, aujourd'hui, le meilleur bouclier d'un système politique et économique parmi les plus réactionnaires que la France ait connu depuis 50 ans.
Bonjour, je m'appelle Vanessa Codassoni, je suis, on va dire, socio-historienne, et je travaille en gros depuis 15 ans sur la répression et la répression des militants. Je pense que la répression policière, elle s'inscrit véritablement dans la lignée de ce qu'a étudié Maurice Rachfus, parce que lui, il a beaucoup travaillé justement sur cette répression-là et elle a des racines, et ces racines-là, il ne faut surtout pas les oublier, parce que pour comprendre la répression aujourd'hui, il faut absolument travailler sur la répression passée. Et par exemple, on ne peut pas comprendre la répression d'aujourd'hui si on ne regarde pas la répression coloniale. On ne peut pas comprendre la répression du militantisme si on ne regarde pas la répression de mai 68 et la répression de l'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche dans les années 70. Et on pourrait remonter comme ça dans le temps, on pourrait remonter à Vichy. C'est Vichy est le moment où la police a été nationalisée, où la police nationale est mise en place. Donc effectivement, les travaux de Maurice, ils s'inscrivent vraiment dans une démarche qui vise à comprendre l'histoire de la police et l'histoire de la répression. Par exemple, il a recensé tous les petits procès qu'il y avait eu de militants. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est des choses dont on a très peu parlé. Et dont moi, c'est un travail qui me sert énormément quand je travaille sur la répression. C'est un historien et un journaliste à la fois qui est peut-être moins connu que d'autres historiens. Peut-être qu'il n'est pas enseigné forcément dans les cursus, à l'université notamment. Et je pense qu'effectivement, il gagnerait à être lu. En tout cas, sur ces questions-là, sur ces questions de répression, c'est fondamental, je pense, qu'il soit lu par la jeune génération, parce que, je le redis, ces travaux-là nous permettent aussi de jeter un regard très historicisé sur ce qui se passe aujourd'hui. À la base, il n'avait pas fait des études d'histoire, il n'avait pas d'agrégation d'histoire, il n'avait pas fait de cursus universitaire historique. Après, je pense qu'il faut se détacher de ça, enfin, il faut absolument se détacher de ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut se détacher à la fois de ça et à la fois des étiquettes. On s'en fiche de savoir si quelqu'un est historien, politiste, sociologue, on s'en fiche pas mal. Ce qui compte, c'est ce qui est produit. Et écrire, c'est important, quelle que soit l'étiquette de la personne, le statut.
Encore dans « Je n'aime pas la police de mon pays », page 89, il est évident que nous ne sommes pas encore à l'état policier. C'est heureux. Profitons-en comme des moments rares qu'il convient d'apprécier. Et je me permettrai d'ajouter, écrivons la suite, ensemble. Retardons cet état policier.
C'est sûr qu'il tombe quand nous tombons et nous aurons la liberté.
Nous sur radioparleur.net.
Marre des beaux parleurs? Écoutez Radio Parleur et faites un don défiscalisé à 66%.
Un grand merci à Martin Lelièvre pour ce reportage. Quant à nous, on se retrouve juste après Flevance et le titre Hold Your Hands Up, c'est un featuring avec Laura Vanet.
Through, yeah. Hold your hands up. Hold your hands up.
Retour sur les ondes de Radio Campus Angers dans le Pédalo. Pour cette émission spéciale Radio Parleur, nos camarades de la radio de toutes les luttes, on réécoute des reportages réalisés samedi dernier et on part maintenant au cœur du cortège de la Pride qui s'est tenu donc à Paris ce samedi. Un rassemblement de plusieurs milliers de personnes à l'appel d'une soixantaine d'associations et collectifs. Un reportage réalisé par Justine Mascarilla. On écoute ça tout de suite.
On est ici pour marcher pour nous, mais on est aussi pour marcher pour tous.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Raya de Fier.
Et du coup, moi je suis Rachel de Fier.
Fier est une association féministe radicale portée par des Gwyn bi trans.
Elle a été créée en 2013 et le but de l'association, c'est de détruire le hétéropatriarcat avec toutes les implications systémiques que ça implique.
Le patriarcat blanc aussi.
On travaille en interconnexion avec d'autres luttes que les nôtres et l'idée, c'est de penser global et de penser à une destruction complète de tous les systèmes d'oppression.
Cet événement est davantage une initiative commune et c'est important pour nous de garder l'idée de communauté.
On est 62 signataires, donc ça veut dire qu'on est 62 collectif à avoir pensé et à avoir organisé. Il n'y a pas de collectif qui a eu l'idée, il n'y a pas de collectif qui a pensé. Il y a eu 62 personnes qui se sont mises en tête et qui ont décidé de, en deux semaines, construire une Pride politique qui correspondait à nos attentes et qui exprimait nos besoins.
Donc Dras, militante dans la lutte contre le VIH et pour les droits des personnes LGBT et contre les discriminations de manière générale. Voilà, je suis passée par ACT UP Paris pendant un long moment et aujourd'hui je milite à Accept ST. Dans la mesure où l'inter-LGBT en ce moment et depuis nombreuses années chapote des prides qui sont très commerciales avec des tendances politiques plutôt douteuses. Là aujourd'hui, en fait, c'est une manifestation organisée et autogérée par des personnes LGBT qui ont des revendications bien spécifiques à porter. C'est une organisation unitaire où chaque collectif, chaque cortège, chaque asso ou chaque individu va se retrouver dans ses revendications propres. Et voilà, c'est différent dans la mesure où bah, t'as pas un char de Mastercard, t'as pas le flag, et y a pas de mot d'ordre unitaire, si ce n'est que nos fiertés sont politiques.
Davantage qu'une comparaison avec l'inter-LGBT, on tient à réclamer, revendiquer une Pride qui nous est propre, une Pride qui est éminemment politique, une Pride qui ne soit pas capitaliste, et qui soit inclusive de tous et toutes.
On est là, nombreux et nombreuses, pour rien plus fort que jamais. Que nous, les femmes trans, migrantes, racisées, séropositives, travailleuses du sexe, migrantes.
La Pride, elle s'inscrit dans une continuité de ce qui a été fait depuis Stonewall, de ce qui continue d'être fait pour les mouvements civiques, d'une continuité, d'un besoin de résistance, de montrer nos existences comme des existences réelles et qui ont du sens. On est ici pour rappeler qu'on existe, pour montrer qu'on est visible. Et on est ici pour ne pas le montrer uniquement pour le char Mastercard et le char En Marche. On est ici pour le montrer pour les précaires, pour celles et ceux qui n'ont pas le pouvoir d'être vus, celles et ceux qui n'ont pas le luxe d'être vus.
L'assimilationnisme nous a pas protégés du racisme. Il a juste encouragé notre déracinement et notre acculturation.
Alors, je m'appelle Sarah. Je milite principalement pour les personnes noires LGBT, les personnes noires en général. J'ai le drapeau Black Lives Matter dans mon dos et voilà, c'est pour ça que je tenais à être là pour une pride politisée dans le cortège en non-mixité racisée.
Pas seulement
dans le cortège,
peut-être
les personnes racisées, les personnes noires,
c'est
derrière.
C'est Max, on va essayer de laisser passer.
Souvent, la communauté a tendance à être représentée en public dans les médias comme blanche, avec surtout des figures blanches. Et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup plus de visibilité pour les personnes LGBT racisées. J'attends que de la visibilité, principalement. Aussi important que les personnes blanches de la communauté prennent en compte les revendications des personnes racisées, parce que c'est hyper important. La communauté est encore ultra toxique pour nous. Et du coup, voilà, j'attends vraiment de cette visibilité et en particulier de la remise en question de la part des personnes blanches et LGBT.
Alors, je m'appelle Giovanna Rincon, je suis directrice de l'association AccepTST, militante pour les droits des personnes trans, et je suis co-porte-parole de la Fédération Trans Intersex. Ça fait 50 ans qu'on est dans le mouvement LGBTI. 50 ans après, on est face à une épidémie qui a, pour le coup, invisibilisé pas mal nos luttes politiques en tant que mouvement LGBTI. Et ce confinement, avant tout pour nous, c'est un rappel à quel point les libertés fondamentales en France ont été conditionnées non seulement par l'épidémie, mais sous le prétexte de l'épidémie, aussi pour invisibiliser vraiment les débats et pour centrer plus l'attention sur un contrôle du corps, contrôle des frontières, contrôle aussi de tout ce qui relève vraiment le droit de chaque individu à pouvoir vivre sa propre liberté et son genre, son orientation sexuelle et affective. Donc pour nous, il y a forte nécessité d'être ici, de rappeler à quel point nos luttes sont politiques, que nos luttes sont aussi des luttes politiques, mais en convergence des luttes politiques, et que nous battons avant tout contre toute forme d'oppression, contre le racisme, quel que soit l'individu touché par le racisme. Les LGBTI ont été il y a 50 ans, et ils le sont aujourd'hui là, présentes. Donc on est ici, mais pas par caprice et pas avec un synonyme d'égoïsme, puisque le racisme qui a déclenché cette épidémie, la xénophobie, l'hygiénisme, et le contrôle des corps sous prétexte de lutte contre l'épidémie, on est là pour le dénoncer, pour dénoncer à quel point nous comptons aussi les victimes dans notre communauté. Deux femmes trans ont porté par le Covid et par le sida. On meurt encore aujourd'hui en France du sida, et c'est parce qu'on est aussi défavorisé à niveau socialement. Et donc, on doit aussi compter nos morts par rapport au déconfinement. Le suicide des trois femmes trans qui ont eu lieu seulement dans le mois de juin prouve à quel point nous sommes aussi la conséquence des 50 ans de lutte, mais que cette épidémie a fait des ravages à l'intérieur de notre communauté, et que les plus jeunes qui aujourd'hui devraient être entre guillemets rassurés des soi-disant acquis pour nos droits fondamentaux sont ceux qui payent la note, parce que Mathilde avait seulement 19 ans et elle a décidé de sauter la vie, sûrement parce qu'elle était dégoûtée de voir à quel point les droits fondamentaux ne sont pas respectés. La liberté des personnes trans, elle est toujours soumise à des contrôles psychiatriques, à des contrôles judiciaires. Et donc, c'est pour nous, à un moment aujourd'hui ici, le 4 juillet 2020, à rappeler 50 ans après la naissance du mouvement Stonewall LGBTI, nos luttes sont avant tout politiques.
Merci beaucoup. Je m'appelle Cori, je suis partie de l'association ACFTC. Je suis migrante, puta, travailleuse sexuelle et xénophobe.
On se réapproprie la rue, mais pas que la rue. On a un espace médiatique à se réapproprier. On a la PMA où aucune gouine n'a été invitée sur un plateau télé pour en parler. On a des personnes racisées qui se font tuer et oh, les gens qui en parlent, c'est Éric Zemmour sur BFM. On demande une réclamation, nos identités, notre discours, nos fiertés.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Vous avez pleuré pour Patrick Balkany ? Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à Radio Parleur. Ça se passe sur radioparleur.net/don.
Et voilà, un grand merci à Justine Mascarilla pour ce reportage. Merci donc également à Martin Lelièvre. Ces reportages et de nombreux autres sont à retrouver sur le site de Radio Parleur, radioparleur.net. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve demain pour le dernier pédalo de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.